7 milliards de voisins, on est ensemble.
Tout le monde est voisin.
7 milliards de voisins, Charlie Dupiau.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins. Ils nous inspirent, nous font grandir et nous ouvrent parfois la porte d'un autre monde. Nous parlons des enseignants aujourd'hui. Quelles qualités sont nécessaires pour bien transmettre à ses élèves? Faut-il avoir une vocation? Et quels conseils pour celles et ceux qui aimeraient suivre cette voie? En France, ce métier attire de moins en moins de candidats. Salaire qui stagne, profession déclassée, manque de reconnaissance. Comment revaloriser ce métier? Avec nous, pour en parler, elle pose la philosophie à hauteur de ses élèves pour que Spinoza, Platon et Nietzsche les guident même en dehors de l'école, dans leur vie de tous les jours. Marie Robert, bonjour.
Bonjour.
Vous enseignez la philosophie et le français au lycée Athéna Montessori et vous publiez le livre Kant, K-A-N-T, un petit jeu de mots avec le nom du philosophe. Kant, tu ne sais plus quoi faire, il reste la philo. Livre publié chez Flammarion. En face de vous, Lucien Marbeuf, bonjour.
Bonjour.
Vous ne parlez pas encore philosophie avec vos élèves, je pense, ils sont un peu jeunes pour ça.
Ça peut arriver.
Ah bah très bien, vous êtes instituteur en école primaire, vous enseignez actuellement en CM2 et on peut suivre vos péripéties en classe et votre regard sur ce métier sur votre blog Instit Humeur. Et André Robert, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes avec nous depuis les studios de France Bleu Armorique, que l'on remercie au passage. Vous êtes enseignant-chercheur, professeur émérite en sciences de l'éducation et vous avez coécrit le livre « Professeur des écoles au XXIe siècle », portrait de ce métier et de ses évolutions depuis 20 ans. Et vous, les voisins, les voisines, si vous êtes instituteur, institutrice ou professeur, qu'est-ce qui vous plaît dans votre métier? Pourquoi avoir choisi cette voie qui est loin d'être aisée? Classe surchargée, manque de matériel, racontez-nous aussi les difficultés auxquelles vous faites face et comment vous les contournez. Et puis les voisins qui ne sont pas enseignants, vous êtes aussi bien sûr les bienvenus dans l'émission. Si vous avez envie de rendre hommage à un professeur qui vous a marqué, c'est le moment. Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. 33 1 84 22 71 71. Et vous nous écrivez comme toujours sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter. Sur Facebook, Alassane nous écrit depuis Gao au Mali. Moi, je suis enseignant dans une école privée. C'est un métier noble que j'ai choisi car j'aime transmettre. Blaise est lui instituteur en CM2 à Boisflay, en Côte d'Ivoire. La satisfaction est bien plus morale que matérielle. On est heureux de savoir que ses anciens élèves occupent des places importantes dans la société. Mais pour y arriver, que de sacrifices et surtout de dons de soi. Mais j'adore mon métier. Armand nous écrit lui depuis le Togo. Le métier d'enseignant devrait être une vocation. Mais de nos jours, certains sont rentrés dans le métier par accident, c'est-à-dire, et là il cite une expression, à défaut du chien, on amène le chat à la chasse. Également Bakary à Bamako qui abonde dans son sens. Ici, avec la montée du chômage, ce n'est plus une vocation mais un gagne-pain. Et je termine par ce message de Maxi à Bobo Dioulasso au Burkina. En ce moment, dans mon pays, les résultats du baccalauréat sont annoncés et quand mes élèves m'appellent pour me donner leurs résultats, j'ai l'impression de faire partie intégrante de leur vie.
7 milliards de voisins.
C'est vous qui faites l'émission.
Bonjour à tous. Je m'appelle Bounasso. Je suis à Nouakchott, capitale de la Mauritanie. Je suis éducateur depuis 10 ans cette année. Je voudrais témoigner de ce que j'ai appris au contact des enfants. Les enfants m'ont appris plusieurs choses, parmi lesquelles la patience d'abord. Et ensuite, l'écoute. D'abord, à m'écouter moi-même. Et à écouter mes propres faiblesses. Donc, si je veux passer un message à un enfant, si le message ne passe pas, c'est qu'il me manque quelque chose. Et à chaque fois que j'ai un enfant qui n'a pas compris, j'essaie de revoir ma copie, j'essaie de me remettre en question. Je voudrais rendre hommage, non pas aux éducateurs, mais aux enfants eux-mêmes. Merci beaucoup.
Ce voisin enseignant remercie sur WhatsApp ses élèves pour tout ce qu'ils lui ont apporté. Marie-Robert, je vous ai vu sourire.
Ah bah oui, forcément, ça me touche. Évidemment, parce que je crois qu'une des choses les plus essentielles de ce métier, en tout cas moi c'est quelque chose que je dis souvent, ce sont nos élèves qui nous apprennent à être profs. plus que l'inverse. Alors bien sûr, il y a cette idée de transmission et bien sûr qu'on arrive avec quelque chose à leur donner, mais c'est vrai que c'est eux aussi en permanence qui nous permettent de nous ajuster. Et on en parlait à l'instant en coulisses avec Lucien, c'est il y a vraiment cette idée de se remettre en question face au cas auquel on est confronté. Parce que évidemment qu'on arrive avec une théorie, avec une formation, avec un parcours, avec une idée du contenu qu'on veut donner, sauf que le principe de réalité fait que forcément, eh bien, ce sont nos élèves qui vont aussi montrer quel contour on va dessiner.
Et vous, qu'est-ce qui vous a poussé à devenir professeur ?
Je crois que j'ai toujours voulu être prof. Vraiment, je pense qu'il n'y a pas une seule fois où je me suis imaginé faire autre chose.
Dès l'enfance. Vous y pensiez ?
Ouais, vraiment, dès l'enfance, j'y pensais. Après, prof de philo, forcément, c'est venu un peu plus tard. Et puis, par la suite, j'ai enseigné effectivement à la fac. Alors là, formidable, parce qu'on est dans des conditions où intellectuellement, on est ravi, comblé, et puis on remplit sa faille narcissique devant un amphi, c'est formidable. Mais au bout d'un moment, j'avais besoin justement de cette confrontation, d'être bousculée, d'avoir le retour de mes élèves en direct.
D'une interaction.
D'une interaction. C'est-à-dire que ce qui est formidable quand on est dans un espace comme la classe, c'est qu'on ne peut pas tricher. On ne peut pas mentir. Les élèves vont forcément s'engouffrer dans notre faille. Et c'est ça qui est intéressant, en fait. C'est cette remise en question permanente qui est difficile et qui fait aussi de ce métier un parcours de vie. Mais c'est ça qui est passionnant.
Lucien Marbeuf, pour vous, le métier d'instituteur n'a pas été une vocation au départ ?
Absolument pas. À l'origine, moi, je voulais faire du cinéma, donc rien à voir. Enfin, rien à voir en apparence, parce que quand, après une dizaine d'années, j'ai décidé que le cinéma était... un gagne-pain un peu compliqué, je me suis interrogé sur la suite à donner à mon orientation professionnelle, et c'est une amie qui m'a dit « mais je te vois mais tellement prof, je te vois tellement instit ». J'ai ouvert de grands yeux ébahis parce que je n'y avais absolument jamais pensé, et force est de constater qu'elle avait parfaitement raison, donc je la remercie ici, parce que ça fait 13-14 ans que je suis instit, et c'est vraiment, vraiment, vraiment ce qui me convient, ce qui me rend heureux, et je ce pourquoi je suis fait.
André, Robert, selon une enquête datée de 2016 en France, quand on demande aux professeurs des écoles les raisons qui les ont amenés à choisir ce métier, 74% d'entre eux répondent une forte attirance pour le métier, une vocation. Donc la vocation aujourd'hui est encore importante ?
Oui, tout à fait. Cette enquête qui est due à un institut Harris Interactive et dont nous faisons une analyse secondaire dans notre ouvrage, Françoise Caro, ma co-auteure et moi, confirme une tendance qui est avérée dans le métier d'instituteur depuis très longtemps et qui se confirme dans le métier de professeur des écoles, à savoir des déclarations en faveur d'une attirance pour le métier, voire d'une vocation, ce terme qui fait référence à une espèce d'appel transcendant, peut-être sujet à caution, et puis aussi un très fort goût pour le travail avec les enfants. Et nous allons même jusqu'à employer l'expression « amour des enfants » parce qu'elle transparaît beaucoup dans les entretiens que nous avons eus avec ces enseignants, professeur des écoles du début du 21e siècle.
Et alors, vous dressez dans votre livre un portrait type des professeurs des écoles, donc qui enseignent en primaire et en maternelle en France. 82% d'entre eux sont des femmes.
Voilà, tout à fait, à une féminisation qui a été constante au cours du XXe siècle et depuis notamment la Première Guerre mondiale, mais qui s'est accentuée après la Seconde et qui s'accentue encore ces dernières années, puisque on s'aperçoit que ce pourcentage est encore plus élevé chez les nouveaux recrutés, j'emploie le masculin, excusez-moi, chez les nouveaux recrutés du début du 21e siècle. Et si le pourcentage global est de 82,6%, il s'élève à près de 84%, voire un peu plus, chez les nouvelles recrutées, devrions-nous dire.
Alors les voisins, les voisines, vous nous appelez au 33 1 84 22 71 et on a beaucoup d'enseignants parmi nos voisins. On va donner la parole à Diderot, à Yaoundé tout de suite. Bonjour Diderot.
Bonjour Charlie, bonjour les voisins.
On vous écoute Diderot.
D'accord, je suis devenu enseignant par vocation, mais une vocation qui n'est pas innée. Elle a été acquise et boostée par mon enseignant, mon prof d'espagnol, lorsqu'il faisait la classe de terminale. il est arrivé au lycée et il nous a plu tout de suite. Un albinos, les conditions n'étaient déjà pas faciles, mais il aimait et il aime tellement ce qu'il fait qu'il a su transmettre en nous le gène ou alors le génie de cette langue-là.
Et vous-même, vous êtes devenu professeur d'espagnol.
Et oui, je l'ai suivi dans ses pas, puisqu'il m'a toujours motivé, il m'a toujours encouragé à faire l'espagnol et j'ai décidé d'enseigner l'espagnol aujourd'hui, même quand c'est très difficile au pays.
Et comment vous faites alors pour enseigner l'espagnol? Je crois que vous pratiquez avec les élèves des activités un peu culturelles, par exemple, vous les faites chanter en espagnol?
Oui, effectivement, c'est l'amour de la langue, c'est, ça tient à tout cela. Donc, pour motiver mes élèves, les tout petits, je leur apprends des chansons en espagnol, puisque les chansons sont adaptées aux différents modules. Par exemple, quand on enseigne les lettres, il y a une chanson pour les lettres, les chiffres, il y en a, et etc. Il y a beaucoup de chansons pour cela. Ensuite aussi, puisque j'ai appris quelques cours de salsa, danse sportive, je leur fais ces cours dans le cadre des activités extra et parascolaires, et surtout dans le cadre du club espagnol que j'anime au lycée.
Merci beaucoup Diderot pour ce témoignage. Comment vous réagissez, Marie-Robert? Vous aussi, vous transmettez l'amour d'une langue, celle de la philosophie?
J'espère, en tout cas. Non, je crois que ce qui rejoint le témoignage de Diderot, ce qui est pas mal comme prénom d'ailleurs, au demeurant pour une prof de philo, c'est cette idée, bien sûr, d'ancrer en fait le savoir dans du concret. Alors là, Diderot, à travers le champ, à travers un espace culturel, mais plus généralement, ce que j'essaye de faire, que ce soit en philo ou en français, c'est ça, c'est-à-dire de donner un sens. Non pas d'avoir juste une accumulation de contenus, de savoirs, de dates, d'auteurs ou de concepts, mais de montrer que la philosophie, et c'est aussi ce que j'essaye de faire dans mon livre, c'est un outil pour ici et maintenant. C'est-à-dire, c'est pas uniquement un outil pour réussir une dissertation, même si bien entendu il y a une méthodologie, bien entendu il y a un examen à la fin, mais ce qui est intéressant, c'est d'en garder quelque chose pour soi et pour la suite, pour notre vie quotidienne, et d'en faire véritablement une sagesse, c'est-à-dire une manière de vivre.
Et comment vous faites alors concrètement dans votre livre? Par exemple, vous liez la gueule de bois et Aristote, le speed dating et Platon. Est-ce que ce sont aussi des choses que vous racontez aux enfants?
Alors un peu moins la gueule de bois et un peu moins le speed dating, mais en tout cas, effectivement, mon idée, c'est toujours de relier. C'est-à-dire, ce que je trouve fascinant dans la philosophie, c'est que tous les concepts utilisés par les auteurs sont des concepts qui sont présents dans notre vie de tous les jours, dans notre vie quotidienne. Et ça, c'est absolument remarquable, déjà parce que c'est très émouvant de se dire que depuis 2500 ans, on a les mêmes problèmes, ou en tout cas, qu'on est confronté au même type de situation.
Donc, par exemple, le désir.
Le désir, la beauté, la liberté, la mort. Forcément, qu'on vive en Grèce antique ou aujourd'hui, dans notre monde contemporain, finalement, ce sont des thèmes que l'on retrouve. Et donc, j'ai vraiment à cœur de montrer aux élèves que la question de dissertation qui leur est posée est une question qui leur est posée à eux, avant tout, et donc qui renvoie à leur vie. Alors bien entendu, il faut citer des auteurs, bien entendu, il faut alimenter, avoir l'humilité de se dire qu'il y a des auteurs qui y ont pensé avant, mais il faut aussi se dire qu'on y est confronté tous les jours. Et que quand on perd son chien et qu'on est très malheureux parce que son animal de compagnie vient de mourir, c'est aussi une expérience de la mort. Et c'est aussi, finalement, une manière, peut-être, d'aborder Heidegger que cette situation-là. Donc c'est vraiment important de les ancrer. La philo, c'est ici et maintenant.
Alors on va donner la parole à un autre voisin tout de suite, Gonzalex, en Côte d'Ivoire. Bonjour.
Oui, bonjour.
On vous écoute, Gonzalex.
Donc, je pourrais dire que le métier d'enseignant, c'est un métier assez passionnant.
Et qu'est-ce que vous enseignez, vous, Gonzalex?
Moi, j'enseigne la comptabilité.
D'accord. Dans le privé?
Oui, dans le privé.
Et alors, comment vous vivez ce métier? Qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier?
Bon, je pourrais dire que ce métier...
Alors, la ligne est très mauvaise, Gonzalex. Je crois qu'on va essayer peut-être de vous rappeler. En tout cas, sur Facebook, ce que nous disait Gonzalex était assez intéressant. Il disait « Quand je donne un cours, je prends une posture, je m'habille en professeur, je parle comme un professeur, je me mets à porter une veste. Pour moi, c'est important pour transmettre, d'être un modèle pour mes élèves. » Lucien Marbeuf. Vous aussi, vous voulez être un modèle ?
Oui. Il y a évidemment une fonction modélisante de l'enseignant. Et au-delà de ça, il y a également une sorte de costume à endosser. Je suis assez d'accord avec ça. On est sur scène, quoi. On est vraiment sur scène toute la journée. Alors, il faut pas abuser de cette position d'acteur parce qu'on est bien autre chose. Mais il y a de ça.
Et vous avez le trac, par exemple, à chaque rentrée des classes ?
À chaque rentrée des classes, oui. Oh là là, bien sûr. Bien sûr. Tout est nouveau, tout est à refaire, tout est à poser, tout est à installer. On sait qu'on est dans les semaines les plus compliquées de l'année et on ne connaît pas encore les élèves. On sait que beaucoup de choses vont se jouer dans les premiers jours. Donc, il y a beaucoup de... Alors, de trac, oui, c'est une forme de trac, de questionnement, beaucoup de choses qui se passent très très vite dans la tête les premières minutes où on essaie de faire en sorte que l'année puisse bien se dérouler très rapidement.
On va accueillir un autre voisin tout de suite, Paul à Abidjan. Bonjour Paul.
Bonjour Charlie.
Vous êtes professeur d'art plastique, on vous écoute Paul.
Effectivement, je suis professeur d'art plastique au collège Abidjan. Et ma mission, c'est de dispenser les cours d'art plastique selon le programme officiel du ministère de l'Éducation nationale. Mais personnellement, j'ai un engagement d'ouvrir le champ de vision du monde aux enfants à travers des inventions que je fais personnellement au niveau des mathématiques, en français, et décèle le problème linguistique de mes élèves parce que la langue d'enseignement, c'est le français. Et on n'oublie pas aussi que dans nos langues ivoiriennes. Et je leur montre que les structures sont différentes. Je leur apprends à mieux calquer, je vais dire à mieux adapter les expressions en français en fonction de leurs différentes langues. Je leur apprends aussi à organiser leur temps. Je leur apprends ce qu'est la concentration. Je fais tout pour qu'ils sortent un peu du cours d'art plastique. Parce que à travers leur imaginaire, certains pensent que le cours d'art plastique, c'est de dessiner. Mais je leur montre que le professeur d'art plastique que je suis doté de d'autres talents qui leur permettront d'avoir un changement de comportement en fin d'année. Mmh. Et ça, c'est un plaisir pour moi.
Donc vous leur proposez des exercices d'art plastique, mais aussi vous leur donnez des cours de français et puis d'autres conseils.
Bien sûr. Au cas par cas.
Voilà. Merci beaucoup Paul pour ce témoignage. André Robert, on l'entend, on le comprend, chaque professeur, chaque enseignant a sa méthode, a ses façons de faire. Quelle place pour la créativité ?
Oui, alors j'ai entendu plusieurs termes extrêmement importants dans les interventions précédentes. Hein. Métier passionnant, engagement, invention. Alors je dois faire état du fait que notre enquête qui porte sur des professeurs des écoles, donc polyvalents, témoigne tout à fait la présence très forte de ces termes dans leur activité propre. Hein. Et notamment le terme d'engagement professionnel, hein, avec tout ce qu'il a de retentissement existentiel. Hein. Ce n'est pas anodin que d'être farouchement attaché à la volonté d'apprendre, de faire apprendre hein, des élèves, de les faire réussir. On peut noter aussi chez les enseignants du premier degré en l'occurrence, un très fort attachement à la liberté pédagogique. Alors ce sont des fonctionnaires tenus d'appliquer des programmes, hein, cela a été dit aussi je crois par Paul à l'instant, mais qui à l'intérieur de ce cadre forcément normatif déploient des trésors d'inventivité, c'est une des formes de leur engagement professionnel, pour mettre en place des séquences pédagogiques les plus motivantes possibles et qui cherchent, je l'ai entendu alors dans la bouche de Marie-Robert, professeur de philosophie, hein, qui cherche à faire sens hein, pour les élèves, le plus possible sens par rapport à tout ce qui vient du monde extérieur et qui risquerait peut-être de brouiller hein, la perception d'un tel sens. sens. Hein.
Lucien Marbeuf.
Oui, je suis complètement d'accord. Je pense qu'il y a une dimension de ce métier à laquelle on ne pense pas forcément de l'extérieur. C'est la créativité. Enfin, on est vraiment, vraiment... alors, quand on prépare ses cours, quand on prépare la classe, on a un espace de liberté devant nous qui est euphorisant, quelque part, parce que vraiment, on se dit, voilà, alors je voudrais leur apprendre ça, je voudrais, au final, arriver à tel résultat, comment faire pour y parvenir? Qu'est-ce que je vais chercher comme moyen, comme outil, comment faire pour que ça les intéresse, voire ça les passionne dans le meilleur des cas, qu'ils soient eux-mêmes engagés dans l'apprentissage et qu'ils en retiennent quelque chose et que ça les, voilà, que ça les remplisse au
Vous
final.
Vous me donnez un exemple parmi vos récentes expériences?
Vous me prenez un petit peu dépourvu.
Bon, je vous laisse réfléchir.
Merci.
Il y a une question aussi que j'aimerais aborder, c'est celle des reconversions professionnelles hein, dans ces métiers. On devient de plus en plus souvent instituteur après une première carrière, Marie-Robert.
Oui, effectivement. Alors, on le voit de plus en plus. Moi, je suis très proche de l'organisme de formation, justement, Apprendre Montessori. Et on voit qu'on est de plus en plus contactés par des individus qui, après un chemin de vie, après des métiers où, justement, ils ne trouvent pas de sens, ils n'ont pas l'impression de remplir une mission, de remplir une quête, d'avoir parfois, d'ailleurs, des professions bien payées, prestigieuses, décident de se reconvertir. Alors, c'est parfois merveilleux, parce qu'on sent que, du coup, c'est un chemin qui a été vécu. Mais parfois, c'est aussi teinté d'un certain nombre de fantasmes qui sont plus ou moins difficiles le jour où on se retrouve face à une classe. Parce que le jour où on se retrouve face à une classe, on n'est plus dans cette mesure justement d'introspection, de « j'ai besoin d'un sens », mais on est confronté à des individus qu'on doit mener quelque part. Tout à l'heure, on évoquait la question du cinéma quand Lucien Marbeuf disait « c'est pas une vocation », mais on a vraiment ce rapport-là. C'est-à-dire que quand on est prof ou quand on est instituteur, il y a cette idée de donner une vision, de poser un cadre, exactement comme un réalisateur.
Aussi.
Donc de tenir une classe. Qu'est-ce que je veux montrer? Où est-ce que je veux les emmener? Qu'est-ce que je vais choisir de mettre en avant? Quelle lumière? Et ça, même si je trouve ça absolument formidable, au contraire, les reconversions, mais il faut y avoir pensé en amont. C'est-à-dire que, voilà, c'est des questions qui sont des questions incontournables. On ne peut pas faire l'économie de la vision. Voilà, quelle vision on veut donner?
Lucien Marbeuf.
Oui, alors on est en manque un peu, peut-être qu'André Robert pourra nous donner des chiffres, mais on est en manque de chiffres très précis par rapport à justement à cet engagement professionnel, on va dire de sous forme de deuxième carrière, notamment des professeurs des écoles. Mais je crois me souvenir d'avoir vu passer un chiffre indiquant qu'il y avait à peu près un tiers des nouveaux professeurs qui ont eu déjà une vie professionnelle avant. Sur mon blog, j'avais fait un jour un espace un peu ouvert où pouvaient témoigner des enseignants qui avaient eu une vie professionnelle avant. Et ce qui m'avait marqué, qui était vraiment le fil rouge, le fil conducteur de chacun de leurs témoignages, c'était la volonté de pratiquer un métier, de trouver un métier qui ait du sens, qui fasse sens pour eux. Il y avait une recherche comme ça de donner un sens à ce que je fais au quotidien. Et je pense que c'est vraiment le dénominateur commun de toutes ces secondes carrières.
André Robert, vous partagez ce constat ?
Oui, tout à fait. Dans nos interviews, c'est très présent, hein, ce phénomène de la reconversion professionnelle. Alors, puisque vous étiez en attente de pourcentage, je vous en donne quelques-uns parce que c'est variable selon les sources. Hein. Selon une source, Harris Interactive, pour ne pas la citer, hein, on serait en 2016 à 32%, ça correspond à ce que disait Lucien Marbeuf à l'instant, de reconversion. Hein, voilà. Une autre source, celle du CNESCO, source proche du ministère, donne un chiffre plus faible qui nous donnerait 15% de reconversion hein, globalement. Donc l'écart est assez important, mais dit assez l'ampleur du phénomène. Et dans nos interviews, beaucoup de nos enquêtés disent avoir rejeté le monde de l'entreprise où il travaillait précédemment, avec sa pression à la performance, avec son management, et disent choisir, alors en toute conscience, un métier où effectivement ils aient le sentiment d'avoir une signification sociale, une
un métier avec du sens
visible, un métier avec du sens et dont on peut voir les effets dans le cas de la réussite des élèves, mais qui en même temps ils ont conscience du caractère extrêmement engageant, hein, au sens d'engagement professionnel et personnel que représente ce choix.
Alors, ce métier ne va pas sans difficulté, notamment sur le continent africain, et certains voisins nous le rappellent. Bonjour Aruna.
Oui, bonjour.
Vous êtes à Nouakchott, en Mauritanie. On vous écoute, Aruna.
Oui, bonjour les voisins. Bon, moi, je voulais intervenir un peu, oui, par rapport à la vacation de l'enseignant. Bon, parce que je suis professeur de maths physique au lycée Nabila, dans un village qui est à 4 mètres de Nouakchott. Voilà, donc moi, j'ai choisi l'enseignement pour vacation.
Alors la ligne est très mauvaise, Aruna, je suis désolée, on va devoir vous couper. Néanmoins, je peux rappeler un petit peu ce que vous nous aviez écrit. Donc Aruna, enseignant à Nouakchott, a des classes à 400 km de Nouakchott, dans un village, a des classes de 80 voire 90 élèves dans un hangar sous une chaleur de 40 à 48 degrés. Maîtriser une classe d'adolescents, nous dit-il, dans cette chaleur, c'est très compliqué. Quand je compare avec la France, évidemment, ça n'a rien à voir. Évidemment. Alors Marie-Robert, comment vous réagissez à ce constat-là ?
Alors bien entendu, on est extrêmement privilégié. Je le suis encore plus, j'enseigne dans des classes Montessori où nous sommes 15. Donc bien entendu, je suis tout à fait consciente du luxe inouï dans lequel on se situe. Parce qu'on voit bien d'ailleurs le décalage. On vient parler de vision, on vient de parler du sens. On vient de parler justement d'avoir un impact, d'avoir une responsabilité, de poser sa classe, de trouver un cadre. Donc on est vraiment dans des grandes aspirations. Et en fait, encore une fois, dans ce principe de réalité, il y a non seulement les élèves et le profil des élèves, mais avant tout, il y a les conditions matérielles. Bien entendu, moi je vois la différence. Pourquoi on arrive à faire autant de choses dans une classe de 15 ? Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de difficultés. Il y a des difficultés qui sont évidemment propres à ce qu'on veut donner, propres à l'individualité de chaque enfant. Mais bien sûr qu'on peut faire beaucoup plus.
Que dans les écoles publiques traditionnelles.
Oui, voilà, c'est pour ça que moi je trouve ça toujours extrêmement délicat d'accuser ou de juger ou de stigmatiser les profs qui très souvent, même dans le système public, font un travail remarquable, c'est qu'on est confronté à des situations matérielles très difficiles. Et c'est avant tout, voilà, c'est tout le paradoxe, quoi. De grandes aspirations et des conditions ardues.
Les voisins, les voisines, on attend vos points de vue, vos témoignages, en espérant que les lignes soient un petit peu meilleures. Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71 et d'ici là, il fait chaud aussi sur RFI. C'est signé Corinne et c'est tout de suite.
Le soleil tape sur mon dos. La mer est calme et bien sage. Le sable brûle ma peau. J'enlève mon chapeau de paille. Lunettes de soleil sur le nez. Il y a du monde en pagaille. Des serviettes roses et des beignets. Sur la plage,
Fausse alerte, circuler, c'est bon. Réconfort, glace vanille fraise. Biscuit qui croque entre mes dents. Petite fraîcheur à trois françaises. Je m'allonge, je me détends.
Milliards de voisins, hommage aux professeurs aujourd'hui qui ne font pas qu'enseigner. Certains peuvent jouer le rôle d'éducateurs, parfois même de modèles pour leurs élèves. Alors, quels conseils pour celles et ceux qui aimeraient se lancer? À quoi doivent-ils se préparer? On en parle avec des professionnels aguerris. Lucien Marbeuf, instituteur en école primaire, qui raconte ses aventures sur un blog Institumeur. Marie Robert, qui enseigne la philosophie et le français dans un lycée Montessori et qui publie le livre Kant, Kant le philosophe. Quand tu ne sais plus quoi faire, il reste la philo. Et depuis les studio de France Bleu Armorique, André Robert, enseignant-chercheur, qui a coécrit le livre « Professeur des écoles au XXIe siècle ». Alors pour continuer de parler des difficultés qu'on rencontre en tant qu'enseignant, nous sommes en ligne avec Cheikh à Dakar. Bonjour Cheikh.
Bonjour.
On vous écoute.
Oui, moi j'ai commencé en 1999 comme instituteur de brousse. Donc là, quand j'entrais dans le métier, c'était tout juste pour peut-être gagner de l'argent et aller faire autre chose. Mais au contact des enfants, vraiment, l'envie m'est venue de rester. Et donc, depuis là, je suis encore dans le métier.
Et quelles difficultés vous rencontrez alors en tant qu'enseignant? Qu'est-ce qui est difficile?
Oui, on a le problème des effectifs. Par exemple, moi, je suis à Dakar, dans la capitale, et je me retrouve avec 67 élèves. C'est pas difficile.
C'est
67 élèves dans une classe en CM1, ils doivent passer en CM2 l'année prochaine. Il y a aussi le problème de la langue, ça pose problème. À la maison, on parle en wolof, en famille, on parle en wolof et en français. Et à l'école, c'est le français. Et ça pose problème, ça aussi.
Et les programmes sont en français?
Voilà, les programmes aussi sont en français, pas très bien adaptés aux réalités africaines, aux réalités sénégalaises.
Beaucoup de difficultés. Merci Cheikh pour ce témoignage. Alors Lucien Marbeuf, vous en tant qu'enseignant en France, évidemment le contexte est différent. Quelles difficultés est-ce que vous éprouvez au jour le jour depuis 13 ans que vous enseignez?
Non, c'est difficile de parler de mes difficultés après ce témoignage. Je n'ai que 31 élèves dans ma classe. Mais je pense que ce qui peut être un point commun, à mon avis, à tous les enseignants de cette planète, c'est le fait d'avoir à gérer des différents profils d'élèves. Alors il se trouve qu'en France, je pense que depuis 10-15 ans, c'est une réalité du métier qui est allée, en tout cas en primaire, en augmentant, si j'ose dire, notamment depuis la loi d'intégration de 2005, où c'est vrai qu'on a dans nos classes des enfants avec des profils très 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 différents. Alors que ce soit ce qu'on résume sous la famille des 10, hein, les dyslexiques, dyspraxiques, dysphasiques, dyscalculiques, les troubles du comportement, les troubles... Bref, avec des enfants qui sont à profil très très différent et avec la nécessité de les prendre en compte pour ce qu'ils sont en classe sans y être formés. Ah, ça, c'est à mon avis... La difficulté, là, actuellement, en tout cas, moi, quand je discute avec mes collègues, la plus prégnante.
La question de la formation, et notamment la formation aussi continue.
De la formation continue, et effectivement, comme le dit Lucien Marbeuf, de la formation continue à ces problématiques-là. C'est-à-dire que là, on est au-delà, enfin, bien sûr que ce sont des problématiques pédagogiques, mais il faut déjà comprendre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, alors moi je le vois en enseignant effectivement dans des écoles privées, les parents arrivent en nous disant « bon ben voilà, mon enfant est précoce » ou « mon enfant est dyslexique ». Mais la difficulté, c'est déjà de mettre des mots. Qu'est-ce que c'est que la dyslexie? Comment ça se manifeste? Comment je le détecte? Comment je peux l'aider? Et en fait, là, tout d'un coup, c'est vraiment un monceau de travail et de problématiques différentes. Donc c'est non seulement je dois transmettre telle ou telle notion parce que le socle scolaire me le demande, bah oui, mais je dois les transmettre avec cette problématique-là, auquel effectivement les parcours d'enseignants ne forment pas du tout. Donc là encore, ça veut dire être de l'initiative personnelle, ça veut dire enquêter, rechercher, et puis alors voilà, on multiplie ça sur un nombre d'élèves avec parfois des réalités sociales différentes, parfois des dénis aussi des parents, parfois des enfants qui n'ont pas d'accompagnement à côté, parce qu'encore une fois, un prof peut faire plein de choses. être un modèle mais n'est pas un thérapeute. Et ça, c'est sans doute quelque chose de difficile à faire comprendre parfois.
Lucien Marbeuf.
Oui, et puis pour poursuivre un peu, je crois qu'une autre grande difficulté, c'est la solitude. Le fait, quoi qu'il arrive, on est seul en classe. Et seul face à tout ce qu'on essaie d'emmagasiner comme information et avec la nécessité de se décentrer. Et parfois, cette solitude n'est pas forcément facile à gérer. On n'est pas tout à fait sûr de nos diagnostics, mais est-ce que, etc. Alors, heureusement, on a des collègues avec qui discuter, on a des professionnels, des psychologues avec qui discuter, mais cette solitude-là, je pense, est une vraie spécificité de ce métier et une des vraies difficultés.
André Robert, c'est aussi ce que vous avez pu retrouver dans les entretiens que vous avez menés avec les professeurs des écoles.
Je crois que, évidemment, il faut relativiser les revendications françaises, des enseignants français en termes d'effectifs quand on entend ce à quoi sont confrontés nos collègues africains. Mais ce qui transparaît de l'enquête, c'est quand même une certaine forme de souffrance possible au travail selon les localisations. Hein. Alors, je peux parler peut-être de la souffrance, de petit niveau que peut éprouver chaque enseignant lorsqu'il est amené à se séparer en fin d'année de ses élèves et de sa classe. Et à ce titre-là, je voudrais saluer le dernier post de Lucien Marbeuf sur son blog qui m'a beaucoup touché. Hein, cette souffrance éprouvée à quitter les élèves. Mais il y a évidemment des formes de souffrance beaucoup plus élevée due à des publics scolaires de plus en plus difficiles à tenir dans certaines zones et surtout la souffrance de ne pas pouvoir dans les conditions actuelles et avec les moyens qui sont donnés de les faire réussir hein, parce que c'est vraiment le projet qui ressort du discours de tous les enseignants. Et à ce titre, on voit bien que l'expérience des CP dédoublés, même si elle peut recevoir un certain nombre de critiques par ailleurs, place en position beaucoup plus favorable pour justement mettre en œuvre ce désir de faire réussir partagent beaucoup de nos enseignants interviewés. Et je dois ajouter aussi sur un plan plus directement objectif et scientifique qu'une enquête de la DEP, hein, une enquête de 2016 menée par la DEP sur les risques psychosociaux montre que ce sont les enseignants du premier degré qui y sont sans doute le plus exposés.
Et peut-être, donc en maternelle et en primaire.
Voilà. Et peut-être parce que, par rapport au second degré notamment, il n'y a pas dans le premier degré de puissantes administrations qui protègent en quelque sorte un peu plus les enseignants. Voilà. Mais je crois qu'il faut insister sur les satisfactions et les fiertés que procure ce métier, évidemment, dont nous parlions tout à l'heure.
Avec beaucoup d'enseignants qui se disent fiers de faire ce métier-là.
Mais aussi sur les souffrances que cela peut entraîner.
Les voisins, les voisines, vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. On parle des enseignants passionnés et inspirants aujourd'hui dans 7 milliards de voisins.
Plus beau souvenir, alors je ne saurais pas dire, mais le meilleur enseignant que j'ai eu, je peux vous le dire, il s'appelait Monsieur Imbeau en CM1. Et c'était ça, il nous a fait faire plein de trucs. On est parti à la mer, on transformait des mouches en vers de terre, on faisait plein d'expériences scientifiques. Il était hyper dur, hyper strict, mais juste. En fait, c'est ça aussi, je pense, un bon enseignant. Quelqu'un qui est très strict, mais qui est juste, en fait.
Alors, c'est un peu curieux, parce que c'était un prof de prépa, qui s'appelait Monsieur Martel, qui était très intimidant. Il faisait très peur aux élèves. Et il était très très dur. Il donnait souvent des notes très très basses, c'était très difficile de dépasser la moyenne. Il parlait très très peu, rien qu'avec son regard on savait au tableau si on avait fait quelque chose de bien ou une catastrophe. Avec lui j'ai énormément progressé. Et en fin d'année il montrait beaucoup plus d'affection avec ses élèves qu'au début où il était très dur.
Oui, une enseignante qui me marquait, c'est Madame Martine. Elle enseignait toutes les matières, puisque c'était en cours élémentaire. Et j'ai retenu son cours d'instruction civique, ou encore les récitations, les fables de La Fontaine. Je retiens jusqu'à maintenant, rien ne sert de courir, il faut partir à point. Et je peux vous dire que rien ne sert encore de courir, même à 75 ans.
7 milliards de voisins, c'est sur RFI.
Propos emplis de sagesse recueillis par Léa Delfolie. Lucien Marbeuf, vous aussi, vous avez été inspiré par un enseignant?
Oui, oui, oui. D'ailleurs, je lui ai dédié mon livre. C'est Monsieur Moreau, mon enseignant de CM1, qui m'a fait passer une année dont je me souviens avec une grande précision. Voilà, on a fait du patin roulette, on a construit une station météo, on s'est choisi une mascotte pour la classe qu'on a floquée sur des t-shirts. Et puis on a beaucoup écrit aussi, je me souviens avec beaucoup d'émotion, du fait de devoir écrire tous les soirs quelques lignes. Et je pense que mon amour des mots et de l'écriture vient de là notamment.
Alors, nous sommes en ligne avec un voisin, Stécou, à Paris. Bonjour Stécou.
Oui, bonjour.
On vous écoute.
Moi, il paraît que je voudrais remercier mon professeur, mon instituteur que j'avais en CM1, qui ne m'a pas lâché. J'étais un élève turbulent. J'avais des bonnes notes, mais j'embêtais tout le monde. Et quand il a vu que c'était quelqu'un d'intelligent, qui avait une facilité de comprendre, il ne m'a pas lâché pour ça, malgré que je faisais tout. Et ce qui m'a marqué chez lui aussi, c'est par exemple, j'avais un 20 sur 20 en mathématiques. Il m'a mis 19,50 parce que j'ai oublié un S sur le mathématique, sur le titre. Donc, c'est ce qui m'a donné envie de réussir aussi. À un moment, j'ai parti en Guinée pour faire 3 ans depuis là-bas pour refaire mon éducation d'après mes parents. J'ai connu les deux et c'est une grande différence. On a 200 élèves pour un seul professeur. C'est pas la même en sciences physiques, on n'a pas la chance de faire des expériences. C'est de la théorie seulement. Et des professeurs tellement qui compris, ils ont pris pour donner des notes orales, on est obligé de regarder le cahier de la personne pour savoir si elle suit le cours. Et si elle suit le cours, elle avait une bonne note à l'oral. Donc, c'est pour vous dire la différence qu'il y a entre la Guinée et la France. Mmh. Et quand je suis revenu, je n'ai pas pu continuer mes études. Malheureusement, j'ai été orienté par le CIO et par le manque d'informations qu'on avait.
Aujourd'hui, vous avez 25 ans, c'est ça? Vous êtes chauffeur routier?
Aujourd'hui, j'ai 25 ans, je suis chauffeur routier. Lorsque j'ai discuté avec M. Lafontaine, et ça, je voudrais le rendre hommage, le professeur de Sermain, il m'avait dit que si je continue comme ça, ça va mal finir pour moi. Donc, cette phrase, elle m'a toujours marqué, je l'ai toujours en tête. Donc, c'est pour cette raison-là que malgré que j'avais pas trop d'études, je continue à m'informer sur Internet, les cours qu'on avait sur Internet, sur anglais facile, sur mathématiques facile.com, et j'essayais d'avoir toujours un bon niveau. Donc, ce qui m'a permis aussi de faire une formation qualifiante, d'avoir un bac pro commerce, donc continuer dans lancer. J'étais chez Adidas, j'étais responsable chez Adidas, en fait, je me suis réorienté en tant que chauffeur routier. Et sa phrase, elle est toujours dans ma tête. Donc, ce qui m'a permis de bien me réinsérer dans la société.
Oui, elle a continué de vous guider, cette phrase-là.
Voilà. Et je voudrais aussi réagir par rapport à certains professeurs qui sont malheureusement pas tous pareils. Parce que dans le zone Z, par exemple, dans le collège de ma petite sœur, elle a fait 2 mois sans professeur de mathématiques parce que le professeur ne voulait pas rester à cause de certains élèves, etc. Donc la principale avait du mal à trouver un professeur de mathématiques. Et le jour où elle en a trouvé un, celui qui est venu devait donner des cours normalement.
Donc après 2 mois sans cours de maths. Hein.
Ouais, sans cours de maths. Et quand il revient, il accélère le programme. Donc, c'est-à-dire, il y a des élèves qui ne comprennent à rien, mais on continue, c'est pas grave, pour faire le programme parce qu'il y a le brevet à la fin de l'année. Le niveau de la classe a été catastrophique. Je prends la note de ma petite sœur, de la moyenne générale de la classe est de 5 de moyenne. Mmh. Elle a eu 6 de moyenne en deuxième trimestre. J'interpelle le professeur principal, je lui dis, franchement, c'est pas normal. Oui, mais ne vous inquiétez pas, c'est pas grave, elle travaille, que quand même, elle a 6 de moyenne, les autres, ils ont 5. C'est le moyen de la classe, il n'y avait pas de prof, c'était discuté. Mais parfois, nous, on envoie nos élèves, nos enfants à l'école, ils sont instruits, c'est pas pour qu'ils aient des 5 de moyenne. Vous allez dans n'importe quel autre collège, vous leur dites qu'on a 5 de moyenne dans une classe de collège, de 3e, vous allez baisser la tête.
Et tout ça parce que donc elle n'a pas eu d'enseignement de maths pendant 2 mois. Merci pour votre témoignage. J'en profite pour réagir. En France, donc on parle aussi de crise des vocations. 2000 postes de maîtres d'école n'ont pas été pourvus à la rentrée 2018. Alors comment l'expliquer, Lucien Marbeuf ?
Oh, c'est multifactoriel. Je pense qu'André Robert aura pas mal de choses à nous dire là-dessus aussi. Il y a pas mal de raisons. D'abord, il y a le fait que c'est quand même un métier qui est pas toujours très, très vu comme valorisant. Il y a le fait que c'est un métier qui a un niveau d'études égal et moins bien payé, 20 ou 25% moins bien payé à niveau d'études égal.
Et puis avec peu de perspectives d'augmentation.
Avec peu de perspectives d'augmentation, puis peu de perspectives d'évolution de carrière aussi. Je pense que c'est quelque chose qui joue. Enfin voilà, je pense qu'il y a pas mal d'explications. Et puis alors, on dit qu'il manque 2000 postes ici ou 2000 postes là, mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quel est le nombre de candidats au départ, et donc quelle est la note, quelles sont les notes d'admissibilité et d'admission, et parfois ces notes-là descendent assez bas. Donc je pense que une des grandes questions pour la qualité du système éducatif dans les années à venir, c'est est-ce qu'on va savoir attirer des talents, attirer les meilleurs profils pour être enseignant ?
Marie Robert.
Oui, mais je crois que voilà, tout est dit, mais même en entendant les précédents témoignages, c'est-à-dire à la fois il faut être compétent, ensuite il faut être adaptable, ensuite il faut effectivement, on voit bien qu'il y a le rapport à l'humain, au vivant, à la juste parole, à donner confiance, etc., etc., avec en même temps, beaucoup de défiance des parents, beaucoup de défiance, parce que c'est une réalité auquel on se confronte, je pense, tous. Beaucoup de défiance aussi de la société. Combien de profs entendent « c'est génial, c'est bon, c'est parti pour tes 2 mois de vacances », que,
vous
etc. »
Vous le racontez d'ailleurs sur votre blog du Saint-Marbeuf.
Donc c'est toujours cette excuse quand tu rencontres des gens « je suis prof », il y a un côté toujours où... Pardon.
Et puis on pense aussi à certaines phrases d'hommes politiques, Nicolas Sarkozy, pour ne pas le citer. Qui avait parlé de...
Donc
de,
c'est là où il y a quelque chose de très confus. Une hyper-responsabilité, parce qu'on nous confie ce que les parents ont de plus précieux et les citoyens de demain, et en même temps une déconsidération en permanence. Donc très sincèrement, c'est vrai qu'il faut être quand même un peu barjo pour vouloir faire ce métier-là, même si je suis convaincue que c'est le plus beau du monde. Mais pour se dire que c'est justement un des plus beaux métiers, il faut déjà passer un certain cap. Et je ne sais pas si aujourd'hui, effectivement, c'est un métier très attractif.
Et alors, quel conseil vous donneriez tous les deux à ceux et celles qui voudraient suivre votre voie, Marie-Robert?
Allez-y. Y croire. Non, se dire que vraiment, pour revenir à un point que nous avons évoqué, en fait, je pense que on a une chance inouïe, malgré toutes les difficultés qu'on vient d'évoquer, même si elles sont à minorer, évidemment, en France. Je crois qu'au moment où on est face à nos élèves, on se pose jamais la question du sens. Et ça, pour moi, c'est le plus grand luxe. C'est-à-dire, voilà, on sait où on est et on sait pourquoi on est là. Et ça, je crois que c'est la plus belle des motivations. Parce qu'il y a peu de métiers, à part peut-être les professions, en tout cas, ou médicales, ou en tout cas qui ont trait vraiment à l'humain. On se dit, OK, ce que je suis en train de faire a un impact, et un impact immédiat. Mmh. Alors certes, c'est une grande responsabilité, mais quelle chance aussi inouïe.
Et Lucien Marbeuf, vous ne faites jamais la même chose, année après année ?
Si, ça m'arrive. Mais pas beaucoup, et il y a énormément de changements. Oui, voilà, il faut suivre le programme, même s'il change assez fréquemment. Non, et puis il y a cette histoire d'adaptabilité. Je me souviens que mon père me disait, lui qui était dans un métier qui lui plaisait, il me disait, écoute, c'est pas compliqué, dans un métier qui te plaît, il y a 80% de contraintes et 20% de plaisir. Et alors je suis pas...
Ça fait beaucoup de contraintes.
Ça fait beaucoup de contraintes, et justement, moi il me semble que dans le mien, sans renverser complètement la balance, il y a, on va dire, au moins un équilibre. Dans le rapport contrainte-plaisir. Pour répondre à votre question sur le message peut-être à donner aux futurs enseignants, c'est soyez sûrs de vous et remettez-vous en question.
tous les jours. Merci, merci à vous Lucien Marbeuf, Marie-Robert, merci également à André Robert et aux équipes techniques de France Bleu à Rennes qui nous ont permis de vous entendre tout au long de cette émission. Merci à toute l'équipe de 7 milliards de voisins, Thomas Trochot à la réalisation, Delphine de Dianous, Sigrid Azeroual en coulisses. Merci aussi à Vincent Porra et merci à vous bien sûr les voisins et les voisines. Lundi, 7 milliards de voisins, comment accueillir les migrants? À quelles difficultés font-ils face à leur arrivée en Europe et notamment en France? On en parle lundi, les voisins.
7 milliards de voisins, c'est fini.